Monsieur Julien, comme la semaine dernière, nous allons vous continuer à vous poser des questions sur le XVIIe siècle. Quelle musique avez-vous choisie, Madame Julien, pour illustrer cette émission ?
Pour illustrer cette vie de tous les jours, j'ai recherché de la musique populaire. Peut-être pas rigoureusement de l'époque où nous nous trouvons, mais j'imagine assez nos ancêtres, au jour de fête, en cette fin du XVIIe siècle, danser ces bourrées, rigodons ou contredanses. Et pour plus de clarté, j'annoncerai les titres au fur et à mesure.
Monsieur Julien, si vous voulez, commençons par parler de l'agriculture. Est-ce que vous pourriez d'abord nous rappeler quelles étaient les différentes façons d'exploiter la terre ?
Oui. La campagne saint-antoninoise, comme toutes les campagnes de notre contrée ici, dans le Barouergue-Quercy, avait retrouvé, après des années de difficultés dues aux guerres de religion, avait retrouvé son visage d'antan et on avait remis en valeur les terres. Et j'avais dit que l'exploitation de la terre se faisait de trois façons principales. Les fermes appartenant à des pagèses, de riches paysans, qui étaient de grosses fermes. Les fermes appartenant à des bourgeois de la ville de Saint-Antonin en général, mais qui pouvaient être aussi des gens des villes de Caylus ou des gros villages environnants, et qui étaient exploités non pas par le propriétaire, mais j'avais dit que ces fermes étaient mises à la ferme, elles étaient prises à la ferme par d'autres bourgeois ou marchands qui les sous-louaient, qui les mettaient en métayage avec des métayers. C'était le régime de toutes les très grosses fermes comme Pêche d'Ax, par exemple, la grosse ferme qui domine Saint-Antonin. Il y avait ensuite la petite exploitation tenue par un ménager, celle-ci étant plus rare que les autres. Et enfin, il y avait ici et là, dans les hameaux, de petits lopins qui étaient cultivés par de tout petits paysans, dont l'essentiel du revenu était obtenu en se louant, en prêtant leurs bras à d'autres. C'était des paysans brassiers. Voilà le régime de la propriété. C'était dans des propriétés de grandeur inégale, avec de très grosses fermes, dont j'avais dit que certaines étaient du labourage de trois paires de bœufs, c'est-à-dire quelque chose de très conséquent et de très important. Il va sans dire que les petites propriétés, celles des ménagers ou celles des tout petits paysans qui vivaient mal, n'avaient pas de bœufs de labour et que là, le travail de la terre se faisait entièrement à la main.
Est-ce que, suivant le mode d'exploitation, on peut avoir une idée de la superficie des exploitations ? Et cette superficie en fonction des terres cultivées, parce que je suppose qu'il y avait beaucoup de bois à ce moment-là.
Et non, justement, le bois était rare. Voilà, c'est une des caractéristiques de cette époque. Il y avait eu beaucoup de déforestation, de destruction des bois à cause des troubles. Le bois est un abri pour les brigands, c'est un abri pour les loups, c'est un abri et c'est un abri pour les combattants, etc. Alors, dans toutes les zones autour des villes qui avaient subi des sièges ou qui avaient mené la guerre, on avait systématiquement coupé les arbres et il y a eu un véritable défrichement presque comme au Xe siècle. Et la campagne saint-antoninoise, comme la campagne autour de Caylus, etc., était vide d'arbres. Au point que toutes les fois qu'on passait un bail de métayage, il était bien précisé que le métayer n'aurait le droit de couper aucun arbre, ni à pied, ni à tête, et qu'il aurait tout juste le droit de prendre l'ourébugune, c'est-à-dire les rejets qui poussent au pied des arbres, il aurait tout juste ça. Et en plus, il était tenu dans tous les bails à ferme de métairie, il était tenu de planter un certain nombre d'arbres. Cela indique donc que la campagne n'était pas couverte de bois comme on pourrait le croire. Au contraire, et justement à cause d'une importante main-d'œuvre, j'ai dit que la population avait considérablement augmenté. Et bien entendu, cela donnait une puissance de main-d'œuvre considérable. On employait beaucoup de monde dans les ateliers de la ville, mais aussi dans les campagnes, dans les fermes des campagnes. Et bien, ces gens-là, on les utilisait pour le défrichement. Il faut que le sol soit net. Alors, quelle était la superficie? Et quand je dis le sol soit net, par exemple, vous qui vous promenez sur l'Écosse actuellement, qu'il soit de Servanac, qu'il soit d'Anglars, qu'il soit de Lacan, qu'il soit de Limogne, partout, de tous ces causes, de Cantayrac, tout ce que vous... Qu'est-ce que vous remarquez toujours? Au milieu des bois, vous remarquez des murettes de pierre. Ces murettes de pierre, soyez-en sûrs, elles ont été faites, elles ont été commencées ou rétablies au XVIIe siècle. Et aujourd'hui, alors, on ne comprend pas pourquoi il y a une murette au milieu des arbres. Eh bien, ces murettes d'autrefois limitaient des champs. Ces champs qui étaient épierrés régulièrement, il fallait enlever les pierres. C'était aussi précisé dans les baux de métayage. Et on en faisait des murs, on en faisait des tas de pierres et on en bâtissait ces fameuses cabanes que certains appellent des gariotes et que l'on trouve partout dans tous les coins des champs. La superficie des propriétés, elle était variable, bien sûr, en fonction de l'opulence et de la richesse du propriétaire. Il est certain, par exemple, puisque j'ai parlé tout à l'heure de la ferme de pêche d'Ax, que la ferme de pêche d'Ax avait à peu près la superficie qu'elle a actuellement, et, c'est-à-dire des, plus de 100 hectares. Hein? Mais on ne mesurait pas un hectare à ce moment-là, attention, hein? On mesurait en sesterré, c'est-à-dire la surface couverte quand on ensemençait un setier de blé. Alors là, je n'ai pas fait les équivalences, excusez-moi, je ne m'attendais pas à la question. On peut dire donc qu'au XVIIe siècle, le visage de la campagne de notre région, Saint-Antoninoise ou Guépienne ou Verfeillaise ou Caylusienne, s'est dessiné et qu'il est resté tel qu'il était à ce moment-là jusqu'en 1950 à peu près. Ce n'est que depuis 30 ans que cette division du territoire s'est détruite par la concentration paysanne.
Vous nous avez déjà parlé, M. Julien, mais j'aimerais que vous nous rappeliez un peu quel était le mode de location des terres, parce que je crois que c'est très particulier de cette époque-là.
Le mode de location, je l'ai un peu rappelé tout à l'heure, donc le propriétaire, s'il est noble ou s'il est bourgeois, donne sa ferme en fermage, non pas à un paysan cultivateur, mais à un bourgeois et plus souvent à un marchand. Pourquoi un marchand? Parce que le marchand a de l'argent. Ce bail fait entre le propriétaire, grand seigneur ou bourgeois à un marchand, se paie en argent. Il est stipulé tant. Ce sera 400 livres, 500 livres, cela dépend de la propriété. Le marchand fermier, lui, va mettre la ferme en métayage. Et cette ferme en métayage, le bail de métayage stipulera que le métayer doit, premièrement, une certaine somme en argent et une certaine quantité, une valeur de location en nature. Blé, poule, géline, chapon. Tu vois, Patrick, que les chapons, c'est quand même pas toi qui les a inventés. Déjà, à cette époque-là, le fermier de la ferme se réservait un certain nombre de chapons pour la Noël. C'était pour la Noël aussi qu'on avait les chapons. Les œufs, du vin, etc. Voilà. C'était le système de bail de cette époque-là. Le système du métayage. Et alors ensuite, toutes les récoltes qui se faisaient se partageaient à moitié. La semence qui s'y mettait se payait à moitié. Et le produit des bêtes d'élevage se partageait à moitié. Alors voilà, le métayer tout à fait moitié, comme son nom l'indique, à mezzos, à moitié. Et avec le fermier, bien entendu. Et je disais donc qu'une grosse ferme faisait par là même vivre trois familles au moins. Celle du propriétaire, celle du fermier et celle du métayer.
Oui, c'est ce qui est un peu étrange. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi on est arrivé à cette double location des terres?
Mais parce que toujours, que je l'avais dit la dernière fois, à partir du moment où un régime capitaliste s'instaure, le régime capitaliste, c'est un régime du profit. Il faut que la terre étant la principale ressource à ce moment-là, quand même, n'oublions pas, hein, c'est la principale ressource, c'est de là que tout vient. Eh bien, il y a des gens qui vont, en parasite, si on peut dire, se fixer sur la terre pour en tirer des revenus, même s'ils n'en sont pas propriétaires, et c'était le cas des fermiers. Ils vivaient là, ils avaient l'argent. Comme le propriétaire, lui, qui était un noble ou un bourgeois, qui avait déjà des difficultés financières parce qu'il vivait sur un train un peu trop au-dessus de ses moyens, le marchand, lui, qui gagnait de l'argent par son commerce, avait de l'argent liquide qu'il pouvait lui donner. Et il lui donnait ça. Mais le marchand, lui, ne donnait pas cet argent sans rien. Il allait récupérer, bien au-delà, son fermage sur le métayer. Voilà ce que je voulais dire. Ça voilà. Fait vivre trois familles.
Oui. Donc, le fermier reçoit la moitié de la production de la ferme.
Oui.
Quelle est la proportion? Est-ce qu'on connaît la proportion qui est reversée à peu près au propriétaire de la ferme? Par rapport à ce que le fermier reçoit.
Oui, bon, je pense que c'est à peu près le tiers. Le tiers de... Et encore, je n'en suis pas sûr. C'est très variable. J'ai été surpris justement de voir combien le tarif, si on peut dire, de location des fermes par les fermiers est variable. Ça peut varier de 150 livres à 800 livres. Je ne sais pas si ça tient au revenu de la propriété. Je ne sais pas, sans doute, à la qualité de la propriété. Et on peut estimer, mais là, il faudrait faire des études beaucoup plus sérieuses. C'est parler un peu dans le vide en ce moment que de faire ce que je fais. Hein. Maintenant, attention aussi pour le pauvre métayer. Hein. Tout se partageait à moitié. Mais à l'air, quand on faisait les comptes, au bout des 6 années, les baux de métayage duraient 6 ans en général. Et ils se terminaient soit à la Saint-Julien, qui est le 28 août, c'est drôle, hein, soit à la Sainte-Catherine, qui est au mois de novembre, si je ne me trompe. Hein. Bon, et bien là, on faisait les comptes avec le fermier. Hein. Et alors là, bon, on s'apercevait qu'une charrette avait perdu un cercle à ses roues. Que, bon, ah, mais qu'il y avait eu une brebis morte ou deux brebis. On faisait le compte de toutes les pertes. Et toutes ces pertes, c'était au compte, si on peut dire, moitié-moitié, du métayer et du fermier. Et finalement, quand on en arrivait au compte final, il se trouvait toujours que le pauvre métayer devait de l'argent encore. Après avoir partagé tout, il devait encore de l'argent à son fermier, c'est-à-dire à celui qui lui avait loué la ferme. La condition du métayer était assez lamentable.
Oui, c'était certainement le fermier qui était qui gagnait le plus.
C'est incontestable. Sinon, tu comprends bien qu'il n'aurait pas pris une ferme à bail pour l'exploiter comme ça, hein.
Monsieur Julien, l'agriculture à ce moment-là employait de nombreux salariés. Est-ce qu'on connaît la condition des salariés de l'agriculture par rapport à ceux qui travaillaient en ville chez les artisans ou dans les petites usines de la ville ?
Non, parce qu'aucun texte, ni chez les notaires, ni dans les livres de comptes, ne nous fait connaître avec précision le prix de la journée d'un ouvrier agricole. Mais, d'après un détail que je vois là, par exemple, dans un bail de ferme, j'apprends que lorsque le métayer emploiera des ouvriers et qu'il les nourrira, le propriétaire fermier, le fermier plutôt, hein, lui donnera 10 sous par jour. Donc, on considère que l'utilisation d'un ouvrier agricole vaut 10 sous par jour. Or, à cette époque-là, un ouvrier normal, du bâtiment, de la chaussure ou du textile, au minimum, percevait 15 sous par jour. On peut donc en déduire que le salaire des ouvriers agricoles, soit les permanents qui étaient occupés toute l'année, soit les fameux estivandiers qui ne travaillaient que pendant l'été, étaient les 2/3, à peu près, d'un salaire d'ouvrier normal. Mais il faut faire entrer en ligne de compte ici un phénomène qui disparaît de nos jours, c'est que tout travailleur qui est employé, soit à la campagne, soit à la ville, chez un maître, chez un patron, est toujours nourri. Est presque toujours logé. Donc, il a sa subsistance qui est assurée. Et dans cette période d'incertitude, justement, au point de vue alimentaire, c'était déjà un avantage considérable. Mais enfin, on peut considérer que l'ouvrier agricole n'avait pas une condition meilleure que celle des ouvriers agricoles. Encore aujourd'hui, oui, mais d'il y a 20 ans.
Une bourrée bourbonnaise. Le Bourbonnais se situe au nord du Massif central. Ici, la bourrée est à 2 temps. Alors qu'elle se danse à 3 temps en Auvergne. Elle est jouée à la vielle à roue.
We'll be right back. Monsieur Julien, est-ce que vous pouvez nous dire un mot des nouvelles techniques d'assolement qui voient le jour à cette époque?
Cette fièvre de remise en état des terres s'est accompagnée au XVIIe siècle par une attention plus grande portée à l'exploitation intelligente de la terre. Vous savez, Olivier de Serres était passé par là. Et on a continué ce qui était le procédé depuis l'Antiquité de cultiver les terres par le moyen de la jachère. C'est-à-dire, dans une pièce de blé, on sème du blé cette année et comme le blé a épuisé la terre, pour la faire reposer, on laissera la terre en friche pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quelquefois 5 ans, jusqu'à ce qu'elle se régénère et elle devient une sorte de pâturage sur lequel pourra paître le troupeau. À partir du XVIIe siècle, une rotation plus rapide des cultures va s'instaurer, c'est-à-dire que la jachère durera rarement 5 ans. Après une culture de blé, on fera l'année suivante une culture d'avoine ou une culture d'orge, qu'on n'appelait pas l'orge d'ailleurs, on l'appelait la paumelle, ou des cultures de fèves, des tseichos, c'est-à-dire des pois cassés, je crois, ou carrés, hein, plutôt, des pois carrés, d'ers, qui sont des variétés de lentilles, qui améliorent la terre comme ce sont des légumineuses, elles apportent de l'azote. Et on aura ainsi un raccourcissement du délai de la terre en friche. On le constate déjà au XVIIe siècle. Apparaît aussi à la fin du XVIIe siècle, ici, une plante nouvelle qui est venue d'Amérique, le maïs. Alors, l'introduction de cette succession de cultures permet de ne pas laisser aussi longtemps la terre en jachère. Outre cela, on est frappé de voir dans les baux de la ferme de Métairie qu'il y a de très nombreuses clés, des clés d'os. Il semble donc qu'on avait instauré à cette époque-là le système du package du troupeau pendant la nuit au moins, ce qui permet une fumure rationnelle d'une pièce de terre donnée, étant donné qu'on va déplacer le lendemain le parc. Vous comprenez ce que je veux dire là? Donc, il semble que s'amorce au XVIIe siècle, d'après les textes que nous avons, sans que nous puissions aller bien, bien loin dans l'étude, il semble que s'amorce une exploitation intelligente de la terre et qu'on ne sème pas au hasard. Autrefois, facilement, on faisait le blé toujours dans le même cloup, si c'était sur le plateau d'Anglard, ou dans la même terre, excusez-moi. Dans la même terre grasse, si c'était du côté de Vézy. Eh bien, maintenant, ce n'est pas systématique. Autrefois, donc, il y avait le coin à blé, par exemple, hein, et on faisait toujours le blé là. Non, maintenant, on fera une rotation. C'est ce que l'on peut dire comme façon culturelle nouvelle. Et en outre, je le répète, l'accroissement du troupeau au vin, considérable, va permettre une meilleure fumure des champs. On n'avait que ça comme engrais, ne l'oublions pas, hein, il n'y avait pas d'engrais chimique. Ne vous faites aucune illusion là-dessus, c'était l'engrais animal, et surtout celui du mouton. Et les bêtes étaient très nombreuses, entre parenthèses, je vais ajouter une autre chose aussi, je ne sais pas si vous m'auriez posé la question, mais une chose qui m'a beaucoup frappé au XVIIe siècle et qui va se poursuivre par la suite. La terre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la source de toute richesse, et tout le monde essaie d'en tirer de l'argent de la terre ou des revenus. C'est ainsi que les artisans du village, les artisans Saint-Antoninois, les tailleurs, les cordonniers, les tisserands, etc., mettaient souvent en pension une bête ou deux. Ça dépendait s'il s'agissait d'un âne, s'il s'agissait d'un cheval, d'une mule, ou s'il s'agissait de brebis, là on en mettait plusieurs, en pension chez un métayer ou chez un agriculteur pagès ou ménager. Alors on a de très nombreux beaux à gazaille, ça s'appelait des beaux à gazaille, je ne sais pas ce que ça veut dire gazaille, hein, mais c'est toujours ça, quand vous voyez bail à gazaille, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas de terre a acheté un âne ou a acheté 3 brebis et il les met en pension dans une ferme. Il les met en pension pour 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. On décrit la bête, c'est comme ça d'ailleurs qu'on apprend que la race de Salers existait déjà ici dans notre pays parce qu'on y voit très souvent un bœuf à poils rouges. C'est donc la race de Salers. Il y a quelques bêtes qui doivent être d'Aubrac ou peut-être garonnaises, puisqu'on les décrit comme de couleur maurello ou de couleur faubeto, fauvette. Hein. Alors c'est peut-être une race ça garonnaise, mais les plus fréquentes, c'est les bœufs poils rouges. Alors, excusez-moi décidément, on met donc l'animal en pension chez le fermier. Et on estime la bête. Eh bien, elle est facile à estimer. On l'a achetée, on vient de l'acheter. Bon, par exemple, si c'est un cheval, un jeune cheval, eh bien, il vaut 40 livres. Et cette bête est donc estimée à 40 livres. Et elle servira, ce cheval, il servira pour le travail de la ferme. En échange, le fermier versera à celui qui est propriétaire du cheval une sorte de d'indemnité qui s'appelle la bladade. La bladade parce qu'il lui aide à cultiver le blé. Et qui est fixé en nature en général, en valeur de récolte, soit tant de blé, etc. Si ce sont des brebis, eh bien à ce moment-là, on en déclare l'argent des brebis, et tous les ans, le fermier qui garde les brebis donnera la moitié de la laine, la moitié des agneaux, à celui qui a fourni la bête. Et à la fin du bail, des 3 ans ou des 5 ans, on revendra les brebis, ou on revendra la mule, ou on revendra l'âne, ou on revendra le bœuf. Et s'il y a une différence en plus, elle sera partagée à moitié. C'est un curieux procédé, ça. Hein, ce qui veut dire que tout le monde, moi, si nous vivions aujourd'hui, moi, j'aurais certainement quelqu'un par là, en pension.
Comment se faisait la commercialisation de tous ces produits agricoles? Parce qu'alors, ces nouvelles techniques d'assolement, ça devait augmenter la production.
Oui.
Et est-ce que c'était réservé uniquement à Saint-Antonin, à la ville? Pour son alimentation, ou est-ce qu'il y avait des échanges, enfin, oui. De la vente à l'extérieur, importation, exportation,
on appellerait ça aujourd'hui. Et c'était d'abord réservé à l'alimentation de la ville, qui était très importante comparativement aux ressources agricoles. Il fallait donc nourrir la ville, et c'est pourquoi je l'avais dit dans une précédente émission, il y avait toutes les semaines le marché aux grains, où les grains étaient apportés en ville, et chaque particulier allait acheter son blé pour faire moudre sa farine et ensuite cuire son pain. Mais comme nous sommes dans un pays de terre à blé ici, le Causse c'était des terres à blé, il est sûr qu'il y avait des années excédentaires. Et ce blé était vendu dans le Haut-Rouergue en général, la région de Rodez, du Ségala, etc., où il y en avait moins. Mais ce n'était pas le commerce comme nous l'envisageons aujourd'hui. C'était essentiellement des productions destinées à la localité, ce qui était grain du moins. Le blé, l'orge, l'avoine, c'était pour la consommation des habitants essentiellement, sauf dans les années de forte production. Mais il y avait alors, attention, des cultures très importantes dont on n'a pas idée aujourd'hui, dont on ne peut avoir qu'une petite idée si on circule sur le plateau de Lacan et qu'on prenne le temps de regarder ce qu'il y a au bord des chemins partout. On s'aperçoit que tous les chemins, les vieux comme les routes actuelles quelquefois, sont bordés de pruniers. Alors là, c'est une production... d'une étude qui a été faite à la fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle, il a été estimé que le Rouergue, c'est-à-dire la région de Villefranche-Saint-Antonin, exportait 2000 tonnes de prunes sèches, attention, par an. C'est énorme. Et vous avez encore cette survivance des fameux pruniers de Saint-Antonin, cette prune qu'on appelait la prune de Saint-Antonin, qui était très célèbre pour ça, qui était une prune ovale, violette, à la chair fine, et qui séchait si bien. Et on les séchait, là aussi, dans les baux de métairie, on le trouve ça, sur des banastos. Le métayer reconnaissait qu'il avait reçu, par exemple, 100 banastes. Je dis bien 100 banastes, 100 clés. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, chers auditeurs, ça, mais enfin, c'est une sorte de plateau en vannerie, qui a à peu près un mètre vingt de long, et qui est de forme ovale. Il y en a un exposé au musée de Saint-Antonin, une de ces banastes, une de ces clés, de ce plateau à claire-voie, qui permettait de sécher les prunes. Et c'était donc la première denrée qui s'exportait. Elle s'exportait en Auvergne, essentiellement, dans tout le centre de la France. Et je l'avais dit dans une précédente émission, en Hollande, puisque la victoire sur la Hollande nous faisait espérer des bénéfices mirifiques avec la vente des prunes. Et puis encore au XVIIe siècle, comme cela se produisait au Moyen-Âge, le fameux safran. Le safran qui était encore produit en très grande quantité, le bon safran, parce qu'il y a deux variétés de safran, n'entrons pas dans les détails, mais enfin, le safran reconnu comme excellent, et partait en... C'était les marchands saint-antoninois, eux, qui assuraient la vente aussi bien de ces prunes que de ce safran. C'est pourquoi ils s'enrichissaient considérablement. Nous avons par exemple nommé un nommé Guéral, marchand de Saint-Antonin, qui était en relation très étroite, très suivie, avec des commerçants de Limoges. Eh bien là, il leur vendait des prunes à cela, vous comprenez? Et le safran, lui, partait aussi dans toutes les régions, et y compris à Toulouse, à Bordeaux, dans tous les lieux où il y avait de l'industrie textile, parce que c'était un colorant, mais c'était aussi une épice. Voilà les deux denrées. Quant aux bêtes, les animaux, eh bien, ils servaient essentiellement à l'alimentation des habitants aussi de la communauté, mais ils s'en exportaient aussi. Et surtout dans le Languedoc.
Est-ce qu'il y avait de l'entrée de provisions?
Non, l'entrée principale de provisions étrangères, à part les denrées de luxe dont j'avais parlé un jour et de la morue séchée et du stofiche, c'était le sel. Voilà la denrée précieuse qui était obligatoirement importée chez nous.
Un rondo, presque de chez nous, puisqu'il était chanté et dansé dans l'Armagnac. Le rondo est fondé sur l'alternance d'un refrain et de plusieurs couplets. Mon paire, maridaime don. Mon père, mariez-moi donc.
Mon paire, maridaime don, je vous veux contento.
Mon paire, maridaime don, je vous veux contento.
Mon paire, maridaime don, tonti, tonti, tonteno. Arreglissai vero, pote cotillon.
Deve l'esse con che traino.
Mon paire, maridaime don, je vous veux contento.
Mon paire, maridaime don, je vous veux contento.
Mon paire, maridaime don, tonti, tonti, tonteno. Arreglissai vero, pote cotillon. Deve l'esse con che traino.
Monsieur Julien, si vous voulez, après l'agriculture, parlons un peu de l'éducation.
Oui.
Quel enseignement était donné à Saint-Antonin?
L'enseignement des enfants de Saint-Antonin, qui étaient nombreux, jusqu'en 1685, a été donné conjointement par les autorités catholiques et les autorités protestantes. Il y avait des écoles protestantes et des écoles catholiques qui étaient subventionnées par la municipalité, payées par les municipalités, c'était l'école gratuite. On continue là le système adopté sous la République protestante. Mais tout de suite après la révocation de l'édit de Nantes, évidemment avec la suppression de tout le culte protestant et l'interdiction aux ministres et aux diacres d'exercer leur profession, tout est devenu catholique. Et donc il n'y a plus eu que l'école catholique. Mais on constate très vite une dégradation de la qualité de l'enseignement qui fera d'ailleurs l'objet d'une délibération du conseil de ville se plaignant de l'incompétence et de la négligence des régents qui sont, vous le savez sans doute, je l'ai déjà dit, les révérends pères Carmes qui avaient l'école de la ville. Pour les filles, il y avait quelques institutrices en ville qui exerçaient leur profession d'institutrice, mais surtout, après la révocation de l'édit de Nantes, ce qui préoccupe essentiellement le clergé, c'est de faire en sorte que les anciens protestants, qui sont devenus catholiques par force et qu'on appelle les nouveaux convertis, que ces nouveaux protestants soient engagés dans la foi catholique. Et pour ça, on va faire tout le nécessaire. C'est ainsi que les filles des familles protestantes seront confiées aux moniales, aux dames de Costejean, c'est-à-dire des monges, où se trouvait un couvent de femmes, qui se seront chargés d'éduquer ces filles dans le bon sens, dans le sens de la religion catholique, apostolique et romaine. Voilà. Mais, je le répète, contrairement à l'agriculture, on peut dire que l'enseignement était en perdition à la fin du XVIIe siècle et qu'il ne se rétablira pas de sitôt dans de bonnes voies.
Et quels étaient les enfants qui allaient à l'école, qui bénéficiaient de cet enseignement?
Bon, les enfants qui allaient à l'école, d'abord, excluons tout de suite les enfants de riches familles, d'honnêtes familles, qui en général faisaient l'apprentissage de l'alphabet, du calcul chez eux. Nous le verrons notamment pour le fils d'une famille protestante, Jean Vieux. Bon, les autres allaient fréquenter quelques mois d'hiver, les enfants de pauvres, les enfants d'artisans, allaient fréquenter quelques mois d'hiver l'école des Carmes, avec plus ou moins d'assiduité. Ils étaient très nombreux dans chaque classe. On peut considérer que le nombre d'élèves variait suivant la pluie ou le beau temps, entre une vingtaine et 100 élèves dans un même local, puisqu'il n'y avait que 3 instituteurs, 3 régents. Il faut faire le compte quand même. Hein. Bon, et ensuite, bon, les artisans qui avaient du travail se dépêchaient dès que l'enfant était capable d'aider un peu aux travaux à le garder chez eux. Ils le gardaient chez eux, ils travaillaient et là ils s'instruisaient. Ils s'instruisaient avec l'artisan. L'artisan en général était un homme qui savait lire, écrire, compter et qui donnait les rudiments de l'instruction à ses enfants. Enfants, s'il en avait plusieurs, principalement aux garçons. Mais on constatera à travers les registres d'état civil du XVIIIe siècle que la population de Saint-Antonin a considérablement perdu en instruction, puisque de très nombreux illettrés se manifesteront, ils ne savent pas signer seulement. Hein. Voilà. Et cela vient de là, de cette dégradation dont est coupable, à mon sens, la révocation de l'édit de Nantes.
Quel était à peu près l'âge de la scolarité? Du début et puis de la fin.
Il n'y avait pas comme aujourd'hui la scolarité obligatoire. Elle ne date que de 1881. Hein. Et on ne commençait pas à un âge donné, on finissait pas à un âge donné. Ainsi, par exemple, l'enfant Jean Vieux, dont je parlais tout à l'heure, savez-vous qu'à 10 ans, son père lui avait confié, parce que son père était consul, il lui avait confié le contrôle des livres de taille, c'est-à-dire des registres sur lesquels étaient marquées les impositions de tous les habitants. Et il avait fait ce travail d'une façon si parfaite qu'on l'avait félicité, qu'on lui avait donné une récompense. On pense de 10 livres à 10 ans. Et bien, on est un enfant de 10 ans aujourd'hui à contrôler un livre d'imposition chez le percepteur. Il ne s'en sortira pas. Vous comprenez? Alors là, il n'y avait pas de commencement ni de fin. Ça dépendait de la circonstance dans laquelle on se trouvait. Il est sûr qu'il y avait des enfants qui, à 4 ans, savaient lire et d'autres qui, à 60 ans, n'avaient jamais appris à lire.
Et quel était le niveau de l'enseignement dans les écoles de Saint-Antonin? Qu'est-ce qu'on enseignait?
Ah ben on enseignait ce qu'on appelait le calcul, les rudiments, le calcul, la lecture des livres religieux essentiellement, et puis le calcul avec les opérations comme on les faisait à cette époque-là, et qui ne se faisait pas d'ailleurs, la multiplication par exemple, la division ne se faisait pas comme on les fait aujourd'hui. Mais il y avait aussi les fils de bourgeois et les fils de riches marchands qui eux poursuivaient des études, si on peut dire, secondaires. Et il y avait à l'école des Carmes une classe de rhétorique et de latin qui ouvrait les voies vers les universités de Cahors et de Toulouse, où ils allaient chercher leur diplôme de bachelier. Là.
Oui, alors pour ceux qui ne suivaient pas ces cours secondaires, oui. Hein, il y avait sûrement l'apprentissage.
Oui, c'était l'apprentissage. On entrait très vite dans la vie active, hein, très vite. Bon, enfin, quand même, n'exagérons pas. Officiellement, on n'y entrait que vers les 12, 13 ou 14 ans. Et à ce moment-là, l'enfant était placé en apprentissage, comme ça se faisait encore il n'y a pas si longtemps, non pas dans une école, ça n'existait pas les écoles d'apprentissage, mais chez un artisan. Précisons tout de suite que le métier de paysan n'avait pas besoin d'apprentissage, on ne trouve aucun contrat d'apprentissage. Et tout enfant qui était placé en apprentissage chez un artisan faisait l'objet, de la part de son père et de l'artisan, d'un contrat passé devant le notaire. Et si vous permettez, je vous en lis un pour que vous ayez une idée.
Oui, peut-être avant de le lire, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu quels étaient les métiers que l'on pouvait apprendre à Saint-Antonin?
Oh, mais ils étaient très variés. On entrait en apprentissage pour être apothicaire, par exemple. À Saint-Antonin même, on n'avait pas besoin d'aller à la faculté de Toulouse, vous voyez, pour être pharmacien. On apprenait le métier de chapelier, de chirurgien. Ça vous étonne, hein? De cordonnier. Un chirurgien n'était pas le chirurgien d'aujourd'hui, il faut s'entendre. Hein. On dirait plutôt un barbier, quoi, si vous voulez. De gantier, de maçon, d'orfèvre, de tailleur d'habits, de tanneur, de tisserand. Que sais-je, moi, maçon, perrier, tailleur de pierre. Une foule de métiers, tous les métiers du textile dont je n'ai pas parlé. Foulon, peigneur de laine, peigneur de chanvre, teinturier. Tous les métiers, pratiquement.
Pour tous ces métiers,
il y avait toujours un apprentissage. L'enfant ne pouvait pas être payé comme ouvrier, comme on ne disait pas un ouvrier, on disait un compagnon, s'il n'avait pas accompli un apprentissage qu'il devait accomplir chez un artisan, chez ce qu'on appelait un maître, celui qui était le patron de l'atelier. Alors il y avait une foule de métiers. Je ne les ai pas tous relevés, mais environ, je sais que ça remplit une page, hein, le nombre de métiers qu'il y avait à Saint-Antoine.
Ouais.
Une page.
Est-ce que vous pouvez alors maintenant nous lire un contrat
voilà,
d'apprentissage
c'est assez
là,
curieux, j'aurais vite fait. L'an 1685, et le 26e jour du mois de juillet après-midi, dans Saint-Antonin en Rouergue, régnant Louis, roi de France et de Navarre, devant moi, notaire et témoin banommé, a été en personne Jean Fournier, peigneur de laine, habitant du dit Saint-Antonin, lequel de gré a baillé et baille en apprentissage à Mathieu d'Arade, maître serrurier, habitant de la dite ville, présent et acceptant, savoir. Donc voilà un peigneur de laine qui va donner son fils en apprentissage, il s'appelle Bernard Fournier, il va le donner en apprentissage à un maître serrurier. C'est une promotion, c'est un ouvrier du fer le serrurier, c'est déjà un métier noble, vous voyez, c'est une, on commence la progression sociale. Alors il donne en apprentissage Bernard Fournier, son fils, pour, par le dit Arade, lui apprendre et enseigner son métier de serrurier pendant l'espace de 2 ans et 2 mois, à compter de ce jour-là, pour et moyennant la somme de 33 livres, laquelle somme de 33 livres, le dit Fournier sera tenu, comme il promet et s'oblige, payé. Auquel effet le dit Fournier a présentement compté et nombré au vu de moi notaire. La somme de 33 livres, laquelle le dit Arade a reçue et remboursée. C'est joli, si on les voit en train de ramasser l'argent sur la table. Dont il est content. Et autre, il lui en a payé la moitié. L'autre moitié, le dit Fournier, promet de la payer au dit Arade dans un an prochain, à peine de tout dépend, dommages et intérêts, au moyen de quoi le dit Arade sera tenu comme il promet et s'oblige, à ça c'est qui est bien, de bien et fidèlement enseigner son dit métier de serrurier au dit apprenti et l'entretenir tant de bouche que de gîte et le tenir blanc et net. Et le dit apprenti de bien et fidèlement servir son maître et lui porter tout l'honneur qu'il et le respect qui lui est dû, pacte convenu que venant le dit Arade à congédier le dit apprenti avant le dit temps sans cause ni légitime prétexte, il sera loisible au dit apprenti d'aller chez un autre maître aux dépens du dit Arade. Comme aussi, si le dit apprenti vient à quitter avant le dit temps sans cause ni légitime prétexte, il sera loisible au dit Arade de prendre notre garçon à la place du dit apprenti aux dépens du dit Fournier père. Et ainsi a été convenu, promettant les parties de ceux dessus observés à quoi faire ont obligé leur bien. Voilà l'apprentissage, un contrat d'apprentissage type. Alors voyez, l'enfant apprenti est mis en pension aussi. Et on nous dit bien qu'il faut qu'il le tienne, qu'il lui fournisse, qu'il l'entretienne tant de bouche que de gîte. Il le nourrit, il le loge. Et ce qui est joli, le tenir blanc et net. C'est pas joli ça. Voilà. Mais il faut payer pour l'apprentissage, vous avez entendu.
Oui,
il
c'est ce que
payer.
J'ai remarqué. Et oui, c'est les parents qui payent le temps d'apprentissage.
Et alors ça c'est très variable.
Enfants.
Le paiement c'est très variable. Le métier qui coûte le plus cher pour l'apprentissage, c'est celui d'apothicaire. Et c'est en général 2 ans aussi, c'est pas long, hein, apothicaire, pour faire les drogues, vous savez, les mixtures, les tisanes, les onguents, les emplâtres. Eh bien là, il fallait payer 150 livres, sans doute parce que on dépensait des médicaments coûteux, je ne sais pas. Pour être chapelier, 2 ans, on payait 30 livres. Pour être chirurgien, vous vous attendez à un apprentissage de moins de 10 ans, là. Pensez-vous, 2 ans. Et on paie 50 livres, c'est tout. Il faut savoir manier la lancette pour être chirurgien et pour faire les saignées, arracher les dents, aider les femmes dans leurs accouchements. Voilà ce que faisait le chirurgien. Mais attention, il y a un métier, lui, c'est autre chose. C'est orfèvre. Et n'oublions pas qu'il y avait beaucoup d'orfèvres à Saint-Antonin. 6 ans d'apprentissage. Et 40 livres seulement pour tout le temps. 6 ans d'apprentissage pour orfèvre, c'est le plus long. Quant à tisserand, alors là je m'attendais à mieux. Hein. Pour être tisserand, il faut 6 mois d'apprentissage. Et c'est même gratuit souvent. Ça veut dire que dès l'abord, on se sert de lui pour tendre les fils, pour les ramasser, etc. Voilà, c'est très intéressant ce tableau des métiers là.
Et quelle était la condition des artisans à cette époque et de leurs employés, surtout par rapport au monde agricole, quoi, disons?
Ils étaient mieux que les gens du monde agricole, incontestablement, hein, beaucoup mieux. L'artisan avait, je crois, moins de difficultés à vivre. Il avait ses ressources assurées parce que, outre son métier qui lui procurait un revenu incontestable, il possédait toujours une vigne, un chènevier pour le chanvre, un jardin. Il avait des terres. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il mettait encore des bêtes en pension. Alors, il valait mieux être artisan que paysan, à ce moment-là.
Et est-ce que les artisans de cette époque employaient beaucoup de main-d'œuvre?
Ah oui, il y avait au moins, dans tout atelier, mais au minimum, hein, il y avait au minimum un compagnon et un apprenti. Mais très souvent chez un tisserand, par exemple dans un testament de tisserand, nous trouvons qu'il avait 5 métiers, le tisserand, l'artisan. Donc obligatoirement, à chaque métier, il y avait un compagnon, et avec chaque compagnon, il y avait un apprenti. Peut-être pas un apprenti pour chaque compagnon, mais au moins 2 ou 3 apprentis. Ce qui fait dans cet atelier, il y avait le patron, il y avait 4 compagnons, et il y avait 2 ou 3 apprentis. Une nombreuse main d'œuvre, beaucoup plus qu'on ne pense. Il y avait du monde ici.
Est-ce qu'il y en avait déjà à cette époque qui partaient pour faire le Tour de France?
Ah oui, ça commençait à ce moment-là. Déjà, nous avons des... sans que ce soit devenu une règle, hein, mais ça commençait parce que nous avions des relations avec les villes voisines, et comme ici quand même la population était nombreuse et qu'il n'y avait pas tellement de travail, les relations que nous avions avec Bordeaux, avec Nantes, avec Limoges, avec Toulouse, incitaient beaucoup de jeunes à partir, et c'était l'amorce de ce qu'on... Si tu viendras plus tard au 18e, au 19e, les compagnons du Tour de France.
Et est-ce que un compagnon pouvait risquer de s'établir à son compte, ou est-ce que c'était très difficile?
Oui, c'était pas un risque, c'était une chance plutôt qu'il pouvait avoir. Non, la condition des compagnons va devenir de plus en plus difficile, justement à cause de ça, de la surpopulation, si on peut dire, et qui fait que va naître petit à petit dans les provinces du royaume autre que la nôtre l'industrie, pas la grande industrie, mais l'industrie. Et les produits que nous fabriquions à Saint-Antonin, les draps, les chaussures, etc., s'exporteront de moins en moins. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de possibilité, si on peut dire, de promotion sociale, et ça va figer le système. Et on sait très bien que la Révolution française s'est faite contre le système des corporations qui empêchait les compagnons de devenir maîtres. Il n'y a que le fils du maître qui peut devenir compagnon, en principe. Le fils du maître qui peut accéder à la maîtrise. Avec le fameux chef-d'œuvre que vous connaissez, qui n'est qu'une formalité. Il suffit qu'il soit admis par ses pairs, hein, c'est tout.
Monsieur Julien, nous avons été très curieux et nous avons peu dépassé le temps.
Oui,
mais nous aurions aimé quand même que vous nous parliez un peu du commerce du sel.
Et le commerce du sel était le commerce d'importation le plus important. C'était une denrée de toute première nécessité. Mais si vous voulez, étant donné que l'heure est quand même bien avancée, nous remettrons ça au 18e siècle, si vous voulez.